Il nous sera difficile d'expliquer ce monde très nébuleux de l'édition scientifique, et plus on s'y penche, plus on s'aperçoit que l'article lui-même qu'on consulte peut être aussi important que l'étude qu'il rapporte. Où rédacteurs, éditeurs, acheteurs et lecteurs semblent se livrer à des escarmouches dans des enjeux économiques complexes. Le sujet étant peu évident d'accès et demandant beaucoup de pratique, nous sommes là encore allés dans une bibliothèque emprunter un bibliothécaire. Nous recevons donc dans notre data center Pierre Nagelen, bibliothécaire responsable des ressources électroniques à l'université Paul Sabatier, alias Toulouse 3, membre du collectif Savoir Commun, auteur de l'excellent blog Numéribib et du billet « Ce que nous dit la Covid de l'édition scientifique ». Dont on va s'y rapporter plus d'une fois, et fut professeur en lettres modernes avant qu'Unicode ne soit populaire. Ceci est la première partie de l'interview axée sur les bibliothèques scientifiques. La seconde partie sera diffusée la semaine prochaine. CPU carré petit utile. Monsieur Nagelen, on va parler rapidement de vous. Vous êtes responsable du service de ressources électroniques d'une bibliothèque universitaire. En quoi ça consiste ?
Ça consiste donc à gérer les abonnements à des bouquets de revues électroniques, mais pas seulement, ça peut être des e-books, on a de plus en plus d'e-books, et des bases de données également. Des bases de données incontournables comme le Web of Science, voilà.
On vous charge parfois de faire des recherches documentaires ou vous vous occupez uniquement des commandes et des conditions d'accès ?
Je m'occupe essentiellement des commandes et des conditions d'accès, ce qui me permet un peu de préciser ce que je viens de dire, tellement j'ai été bref. Il y a la gestion du résolveur de liens, des accès distants, pas mal de choses. Et de temps à autre, effectivement, je donne un coup de pouce à un chercheur, mais c'est loin d'être le quotidien.
La première des questions sur le sujet lui-même est une évidence. Pourquoi est-il important de pouvoir consulter des publications d'autres chercheurs en tant que scientifique ?
Pour employer une expression à la mode que j'aime pas trop, mais c'est la première qui me vient à l'esprit, c'est l'ADN de la science, c'est-à-dire de...
C'est à mon avis, si on était à la mode, on dirait l'ARN messager. Mais...
Oui, c'est vrai. Oui, maintenant c'est Asvin ADN. Bon, alors je peux l'employer maintenant, c'est plus à la mode. Donc depuis le XVIIe siècle, en fait, il y a des revues scientifiques qui permettent aux chercheurs de partager des articles scientifiques. Et pendant très longtemps, il y a eu une culture du partage tous azimuts. D'abord, donc via des revues papier, donc par le courrier, par la poste. Mmh. Avec l'avènement du numérique, fin des années 90. Et se sont constitués des immenses bouquets de revues scientifiques et qui sont passés sous paywall avec des prix extrêmement élevés. Et pour en revenir à nos chercheurs, ils ont besoin évidemment de pouvoir partager leurs articles, de comparer leurs résultats avec ceux des autres, de pouvoir commenter les articles des autres. La science ne se construit pas seule dans un laboratoire, mais par des partenariats. Des collaborations à un niveau international.
Il y a quelqu'un qui faisait remarquer, alors je ne sais plus qui, mais je crois que c'est dans le documentaire d'Aaron Schwartz dont on parlera tout à l'heure, comme quoi justement le paywall était la pire des inégalités entre le Nord et le Sud, puisque les pays en voie de développement ne peuvent pas avancer à la même vitesse que ceux du Nord.
C'est vrai pour l'essentiel, il faut quand même nuancer, c'est-à-dire que les prix qui sont pratiqués en France, dans les pays du Nord, aux États-Unis, ne sont pas les mêmes que ceux qui sont pratiqués dans les pays en voie de développement.
Quelles sont les revues scientifiques de référence ? Celles qu'on dit, c'est... Non, il faut avoir celle-là, sinon on n'est pas une bibliothèque sérieuse.
Si on veut répondre de façon étroite, on va en citer que deux, Nature et Science. Pourquoi Nature et Science ? C'est parce que les articles publiés dans Nature et Science sont comptabilisés dans le classement de Shanghai. Il y a un critère entier basé sur le nombre d'articles publiés par les chercheurs d'université dans Nature et Science.
Et à combien de revues scientifiques est abonné du coup l'université Paul Sabatier ? Donc c'est l'université Toulouse 3, et c'est celle qui est en charge justement des sciences dites sciences dures, sciences naturelles, chimie, physique et tout ça.
À peu près 5000 revues. 5000 revues scientifiques. Sur notre catalogue, on en signale beaucoup plus, parce qu'il y a aussi des revues gratuites. D'après mon dernier comptage, on est à 50 000 revues signaler. Alors il y en a un bon nombre qui sont gratuites, il y en a d'autres qui ont, en fait, ont été payées, mais pas par l'université directement, mais par la commu qui regroupe les, la commu Université de Toulouse qui regroupe les, l'ensemble des universités toulousaines. Mmh.
Et combien de personnes utilisent vos services de bibliothèque, entre les étudiants, les chercheurs, les professeurs et les rats de bibliothèque?
On a un peu plus de 30 000 étudiants. Mmh. Et enseignants-chercheurs et chercheurs confondus, on a 4500 personnels qui donc utilisent nos ressources de façon intensive.
Donc, 4000 revues pour 4500, ça fait à peu près une revue pour une personne qui le consulte. Il y a des revues que l'on paie et qui n'ont qu'une consultation épisodique.
Je crois qu'il ne faut pas du tout voir les choses comme ça. Les revues phares sont consultées par des milliers de personnes, étudiants ou enseignants-chercheurs. Et puis certaines revues sont plus confidentielles, mais en général, elles sont en fait incluses dans des méga bouquets de revues. Par exemple, chez Elsevier, on a, c'est un bouquet de plus de 3000 revues. Wiley, on avoisine également les 3000 revues. Et effectivement, dans le lot des revues, il y a des revues extrêmement consultées. Chez Elsevier, en physique, ça va être Tetrahedron, en médecine, ça va être The Lancet, etc., etc. Et puis d'autres qui ne sont pas du tout consultées, mais c'est un peu le lot.
Et est-ce qu'il y a des revues honteuses, des revues scientifiques honteuses que l'on se planque pour les consulter, comme les gens, quand ils prennent le métro, achètent Le Monde et puis Paris Turf au milieu pour le glisser en plein milieu pour pas qu'on voit qu'ils sont en train de lire Paris Turf, en fait?
Il y a ce qu'on appelle les éditeurs prédateurs. Alors, ce sont des revues gratuites, pour le coup. Mais c'est le chercheur qui paye pour être publié.
C'est honteux d'aller les consulter.
Ben, en fait, c'est compliqué. Dans le lot, il peut y avoir des articles de valeur, mais qui peuvent être souvent perdus au milieu d'un océan d'articles très médiocres.
Qu'est-ce que le consortium Couperin ?
Alors, Couperin, c'est un acronyme. Donc, ça a été créé en 99 par des bibliothèques, quelques bibliothèques universitaires, et puis le noyau s'est grossi très vite, hein. Donc c'est l'acronyme de consortium universitaire, PERI c'est donc périodique et N pour numérique. Donc au départ c'est un regroupement de bibliothèques universitaires pour acheter ou s'abonner à des revues électroniques.
Donc c'est une centrale d'achat.
C'est une sorte de centrale d'achat. À l'heure actuelle, il y a 264 membres, 113 universités et 29 organismes de recherche. Quand on dit organismes de recherche, c'est le CNRS, l'INRA, l'INRIA, etc.
Oui, c'est pas des petits trucs non plus, quoi. C'est... D'accord. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Pierre Nagelen, bibliothécaire responsable des ressources électroniques à l'université Paul Sabatier, pour parler des bibliothèques scientifiques. Comment peut-on publier dans une revue scientifique ?
Alors, il faut être chercheur, il faut soumettre donc ce qu'on appelle un préprint, un brouillon, qui va être donc soumis à relecture par des pairs, les pairs PAIRS, hein, donc d'autres scientifiques pris dans d'autres universités. Souvent, ils sont anonymes, donc l'auteur ne sait pas par qui il est relu.
Moi, simple particulier, puis-je publier une étude de mon cru avec mes tests que j'ai effectués dans ma cave dans une revue un tantinet prestigieuse ?
Non, et vous pouvez pas le faire dans une revue dite prestigieuse, hein, qui est réputée parce que elle aura, ce qu'on appelle un facteur d'impact assez élevé, hein. Donc les facteurs d'impact, c'est une donnée bibliométrique qu'on trouve sur la base biométrique Web of Science. Par contre, vous pourriez très bien publier chez un éditeur qu'on appelle un éditeur prédateur. Pour vous expliquer un peu ce que c'est qu'un éditeur prédateur, on va partir d'un canular scientifique de l'an passé, des chercheurs français qui se sont amusés à publier un faux article vantant les mérites de l'hydroxychloroquine pour réduire les risques des accidents de trottinette.
Hydroxychloroquine, déjà, j'ai levé le sourcil manière Spock, ça c'est pour l'audio-description, j'explique à l'auditeur, mais alors, accident de trottinette, ça c'est pas mal.
Et parmi les pseudo-auteurs de ce pseudo-article, il y avait notamment Nemo Macron, le chien du président de la République.
Ah ouais, ils ont été bons là.
Voilà.
Et c'est passé crème.
Ça a été publié donc dans une revue... dont j'ai oublié le titre. Alors, c'était pas n'importe quelle revue. Là, elle a pas été choisie au hasard parce que quelques mois plus tôt, Didier Raoult avait publié l'un de ses fameux articles dans la même revue.
Oh, aucun de sort, comme disait Marcel Pagnol. Donc, c'est-à-dire, on paie pour être dans une revue.
Voilà, donc on paie et l'éditeur
et en fait,
est censé contrôler la qualité de l'article et puis les affiliations des auteurs. Et là, ça
me rappelle un peu hein, dans le secteur éditorial parce que là, avec le confinement, j'ai entendu que la moitié des Français avaient commencé un projet de livre à écrire. Et en fait, il y a un secteur éditorial qui est très particulier, qui est le secteur d'édition, je vais dire, d'ego, comme ils se disent eux-mêmes, où en fait, ils proposent à des gens de publier leurs écrits, mais il faut payer pour être publié, et évidemment, le bouquin, il n'y a aucune promo ni quoi que ce soit, c'est du même niveau, quoi. C'est pour choper de l'ego, et je vais dire par filouterie, obtenir les sous pour flatter l'ego. Quoi.
C'est le même principe, mais je dirais que là, avec les éditeurs prédateurs, les torts sont plus graves, puisque c'est de la fake science, souvent, puisqu'il n'y a aucun contrôle éditorial sérieux. Et qui dit fake science, bah, dit risque de propagation de rumeurs scientifiques. Qui pourrait être ensuite propagé par les complotistes. Donc c'est extrêmement grave, c'est extrêmement dangereux et c'est pour ça qu'il faut absolument dénoncer ces types d'éditeurs prédateurs. Donc il y a des gens qui tiennent à jour des listes d'éditeurs prédateurs, mais c'est pas toujours évident.
Donc
parce que chaque jour il y a une nouvelle revue qui se crée.
D'accord, ok.
Et qui passe sous les radars.
Et à part ce secteur éditorial, est-ce qu'en général, quand on publie une étude scientifique, on est rémunéré pour cela ? Parce qu'il y a un énorme travail quand même de rédactionnel, plus de relecture, de réécriture.
Non, le chercheur offre son article à titre gracieux. Ça s'explique par le fait qu'il ne faudrait pas que le chercheur soit rémunéré par une maison d'édition, sinon il y aurait une collusion, il y aurait...
qui serait incité à pisser de la copie, quoi.
Voilà, exactement. Donc, ça serait pas très sain, en fait. Mais ce qui peut être bizarre, c'est que l'éditeur fait de l'argent avec un travail fourni à titre gratuit.
Là-dessus, oui, il y a un problème. Et donc, du coup, vous avez parlé de validation d'articles par des pairs. Est-ce que être dans un comité de relecture, du coup, est rémunéré ?
Être dans un comité de relecture, non. Non. Il semblerait que parfois les comités éditoriaux, c'est-à-dire ceux qui gèrent, disons, la revue, perçoivent un petit pécule, mais assez marginal. On n'a pas beaucoup de données publiques là-dessus. Hein. C'est souvent confidentiel. Hein. J'ai participé à des colloques où les chercheurs demandaient à leurs autres collègues s'ils percevaient des rémunérations dans les comités éditoriaux.
Donc, comment est validé l'article et par qui ?
L'article est normalement relu par des pairs, donc d'autres chercheurs pris dans d'autres établissements universitaires, dans d'autres laboratoires. C'est ce qu'on appelle en anglais le peer reviewing, donc la relecture par des pairs. Alors je dis normalement puisque il existe plusieurs cas où on s'aperçoit qu'en fait il n'y a pas de relecture. Donc le premier cas qu'on a vu, ce sont les fameux éditeurs prédateurs. Nemo Macron comme auteur d'un article scientifique.
Oui, mais ils ont peut-être fait tout simplement de la relecture correction orthographique. C'est déjà pas mal.
C'est quand même pas suffisant. Et depuis 2012, donc depuis les travaux pionniers de deux chercheurs de l'Université de Grenoble, hein, donc Cyril Labbé et Dominique Labbé, hein, père et fils, on s'est aperçu qu'il y a un certain nombre d'articles qui ont été écrits par des robots, par donc des algorithmes. Il y en a trois très connus, il y a SciGen, c'est le plus connu, il y a MathGen pour les mathématiques, et puis il y a Sbir. Je vais parler un tout petit peu de SciGen. À l'origine, c'est un canular scientifique des chercheurs du MIT qui l'ont créé pour prouver que les conférences accepteraient des articles dénués de sens. Et ça a marché. Voilà. Et donc, ils ont voulu s'amuser. Mais une fois le canular scientifique réalisé, il se trouve que d'autres chercheurs ou pseudo-chercheurs mal intentionnés ont continué à utiliser SciGen. Pareil pour les deux autres. Et donc, en fait, tout le travail de Cyril et Dominique Labbé, dès 2012, ça a été d'essayer de retrouver, de faire de la décompilation et d'essayer de trouver comment remonter et identifier précisément ces articles générés par des algorithmes. En 2014, il y a eu une publication dans Nature qui parle de leurs travaux et donc il y avait chez i3e. I3E, c'est tout ce qui est informatique électronique. Il y a toutes les conférences les plus prestigieuses dans le domaine.
Gros service de normalisation.
Voilà. Et bien, ils ont détecté 100 articles générés par SciGen. Et chez Springer, il y en avait 15. Donc, à la suite de leurs travaux, ces articles ont été rétractés. Et à l'heure actuelle, ils continuent, pas seulement eux, puisqu'il y a d'autres chercheurs qui ont pris le relais, on continue à identifier des articles qui proviennent donc de ces algorithmes et qui ont été validés et publiés chez des éditeurs. Donc, pour en revenir à notre question, normalement, les éditeurs sont validés par les pairs, mais l'exemple des articles rédigés par des robots prouve que ce n'est pas toujours le cas.
Donc, la matière première, les articles, sont fournis gratuitement. La partie éditoriale de sélection et de relecture est faite gratuitement. Et les revues sont chères. Mais pourquoi paie-t-on alors ?
C'est une vraie question. Compliqué. On est censé payer pour la plus-value apportée par les maisons d'édition. Et alors, quelle est la plus-value ? Puisque là, on vient de voir que la plus-value n'est pas toujours au rendez-vous. Alors, je dirais qu'il y a deux éléments. Ça serait, d'un point de vue, je dirais, matériel, l'infrastructure technique, donc les serveurs, le paiement des serveurs.
Total.
Oui, mais enfin, c'est toujours... C'est vrai que c'est de plus en plus anecdotique.
Ils ont des connecteurs en or ou quoi.
Et puis, surtout, donc, l'organisation du peer reviewing. Puisqu'ils sont les opérateurs de la circulation des préprints qui vont être relus. Une fois que le brouillon sera validé, corrigé, on va devenir ce qu'on appelle un post-print ou un manuscrit auteur accepté. Et puis ensuite, il y a une mise en forme de l'éditeur. Et donc là, il y a aussi tout un travail de mise en forme. Ceci dit, là aussi, on peut s'interroger sur le véritable investissement des éditeurs scientifiques. Deux exemples, en fait, l'envoi des préprints aux différents relecteurs, reviewers, il est assuré par des machines qu'on appelle les outils d'édition.
Oui, enfin, il y a gestion de planning dans un CMS. Enfin, ça c'est maîtrisé dans le secteur de l'édition au niveau numérique depuis les années 90. Donc, ça n'a rien de particulier.
Donc, pour le dire de façon simple, en fait, le travail de reviewing est sous-traité par des algorithmes, donc des outils commerciaux. Le premier, comme par hasard, a été acheté en 2016 par Elsevier, il s'appelle Editorial Manager. Quant à la mise en forme, quand le chercheur soumet, souvent on lui fournit la mise en forme toute prête. Donc en fait,
il a un canvas Word,
avec le copyright en pied de page, le logo de l'éditeur, etc. Il y a une chercheuse en sciences de l'information là, qui a publié un article récemment sur la question de la valeur économique des revues. Et elle s'est intéressée spécifiquement à la valeur économique des revues de chimie. Et elle nous dit la chose suivante, la formation des prix est une question ancienne en sociologie. Pour Max Weber, les prix ne résultent pas de l'agrégation de préférences individuelles, mais sont le produit de conflits d'intérêts et de compromis. Et là...
Ah oui.
Donc là, c'est vraiment une définition intéressante parce qu'elle ouvre sur l'imaginaire. Ce qu'elle nous dit, c'est que il y a une valeur symbolique des revues. On parlait tout à l'heure des revues Nature et Science.
Oui,
c'est plusieurs milliers d'euros. Voilà.
On paie la marque.
Exactement. Ce serait peut-être la bonne explication. Un phénomène de marque des revues scientifiques qui, quand elles acquièrent une certaine notoriété dans une discipline, gagnent en prix.
Parmi ces éditeurs sont d'immenses conglomérats, en fait, de nos jours, et notamment Elsevier. Qui sont-ils ?
Alors, donc, si on va aller vite, Elsevier, c'est le plus gros éditeur scientifique au niveau mondial. L'histoire d'Elsevier, ça remonte à 1880, aux Pays-Bas. Donc, le siège d'Elsevier était à Amsterdam. Elsevier a commencé à se développer après 1945. En 91, ils acquièrent une revue médicale prestigieuse, The Lancet. La boîte grossit très vite dans les années 90. Il y a une fusion avec le groupe britannique Reed pour devenir Reed Elsevier. En 2005, ils achètent les éditions médicales Masson, des éditions médicales prestigieuses
en France.
Ça devient le groupe Elsevier Masson. Depuis 2015, on parle du groupe Rolex Group. C'est pas seulement donc l'édition scientifique, c'est beaucoup plus large. Mais pour ce qui concerne donc la partie édition scientifique d'Elsevier, le taux de marge opérationnelle dépasse chaque année 35%.
35% d'EBITDA. Oui, pas mal, oui, effectivement.
Et il faut imaginer la chose de grosses sociétés qui aimeraient bien réaliser le même. Même dans le secteur pétrolier, le secteur de la chimie, personne n'arrive à un taux de marge opérationnelle de 35%.
Je crois que même dans le secteur de la drogue, on n'y arrive pas.
Dans la communauté scientifique, dès 2012, il y a des chercheurs qui se sont mobilisés pour boycotter Elsevier. La pétition la plus connue elle s'appelle « The Cost of Knowledge », qui a été diffusée par Timothy Gowers. Timothy Gowers, c'est un chercheur britannique en informatique, titulaire de la médaille Fields.
Pas le perdreau de l'année.
Tout à fait. Et donc, il a invité ses collègues, mais pas seulement dans le domaine des mathématiques, à ne plus publier chez Elsevier, à ne plus siéger dans les comités éditoriaux, à ne plus faire de peer reviewing. Alors, c'est une pétition qui a été signée largement à un niveau international, mais ça n'a pas du tout fait baisser les marges de profit d'Elsevier, bien entendu. Autre exemple de résistance des chercheurs qui ont décidé de saborder leur revue chez Elsevier et d'en créer une autre à côté. Un exemple célèbre, en 2015, il y avait une revue en linguistique qui s'appelait Lingua. Et comme Elsevier refusait que cette revue devienne en open access, le comité éditorial a sabordé la revue et a créé une autre revue qui s'appelle Glossa.
D'accord, ils ne parlaient pas la même langue, quoi.
Et pour compléter un peu le portrait de notre éditeur Elsevier, dans le domaine de l'édition scientifique, c'est pas juste son bouquet qui s'appelle Freedom Collection, donc à peu près 3000 revues scientifiques, mais c'est tout un écosystème, en fait, qui concerne tous les pans de l'édition scientifique. Ils ont racheté, il y a quelques années, Mendeley. Mendeley, c'est un peu l'équivalent d'un Facebook des chercheurs. Donc, les chercheurs partagent des articles via Mendeley. Alors, il y a d'autres réseaux sociaux académiques, mais voilà. Mendeley appartient à Elsevier. Donc, ils ont racheté Editorial Manager, qui est l'outil d'édition qui sert à envoyer les préprints aux différents reviewers. Elsevier a développé une base bibliométrique Scopus, qui est la concurrente de l'autre grand géant dans l'évaluation bibliométrique, c'est
Web of Science. Oui, mais ça, à la limite, ça me semble normal pour un grand groupe qui est dans un secteur industriel particulier de développer ses outils métiers et de les avoir, de les concevoir en interne et de les avoir d'une manière exclusive. Ça me semble pas anormal.
On peut raisonner différemment et estimer qu'il y a une concentration progressive assez inquiétante par Elsevier de différents outils. Parce que la liste n'est pas terminée. Il y a Plum Analytics, c'est tout ce qui concerne les altmétriques, c'est-à-dire comment mon article est diffusé en temps réel sur Facebook, Twitter, tous les réseaux sociaux. Pour être complet sur Elsevier et l'édition scientifique, il faut quand même aussi citer les autres poids lourds de l'édition scientifique. Il y a donc Elsevier, ensuite Springer Nature, ou Wolters Kluwer.
C'est le même Springer que le plus gros éditeur allemand de presse.
Oui, c'est le même, c'est le même Springer. Wolters Kluwer, notamment, c'est tout ce qui concerne les revues Lippincott en médecine. Wiley, Clarivate Analytics.
Alors attendez, parce que vous me dites que via le consortium Couperin, l'INSERM et le CNRS achètent des revues sur lesquelles publient leurs chercheurs, mais s'il le faut, les chercheurs d'autres labos du même organisme de recherche, pour avoir l'accès à l'information qu'ils ont besoin, sont obligés de passer par cette revue pour le consulter.
Oui, alors, au niveau donc, de la recherche, il y a ce qu'on appelle les unités mixtes de recherche. Qu'est-ce que c'est qu'une unité mixte de recherche, une UMR ? Eh bien, c'est un laboratoire qui est multitutelle. Donc ça peut être une tutelle de l'université, une tutelle qui vient d'un organisme de recherche comme le CNRS, etc. Ça peut être une école de l'enseignement supérieur comme l'INSA. Et ce qui fait qu'au sein d'un labo, il y a plusieurs canaux d'accès à la documentation scientifique. Et parfois, donc les mêmes organismes payent pour les mêmes ressources. Donc on arrive
voir plusieurs fois s'ils font pas gaffe.
Oui, bien sûr. Oui. L'avantage quand même, c'est que les chercheurs au sein de ces UMR peuvent jongler d'une ressource à l'autre.
En 2019, le CNRS annonçait vouloir atteindre 100% de ses publications en libre accès, donc indépendamment de ses groupes de publications de revues prestigieuses payantes, d'ici fin 2020. Où est-ce qu'on en est actuellement ?
Oui, alors c'est une annonce qui a été faite en novembre 2019, lorsque Antoine Petit, donc le président directeur du CNRS, a présenté la feuille de route du CNRS pour la science ouverte. Je suis allé voir un petit peu là sur un site qui s'appelle Scanner, qui est mis à jour par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc en 2020, on est à 51,2% de publications en accès ouvert.
Il n'y a que la moitié du chemin qui est fait, effectivement, là il y a un bail. Okay. Combien cela coûte à un chercheur d'accéder à son propre travail de recherche ?
Pour répondre de façon directe à la question, je dirais que le modèle économique de l'édition scientifique est un modèle absolument aberrant qui consiste à payer deux fois. Alors pourquoi deux fois ? Il y a d'abord le salaire des chercheurs qui vont publier sur fonds publics et par ailleurs les bibliothèques universitaires doivent repayer pour accéder au bouquet de revues électroniques. J'ai dit deux fois, on peut aller même jusqu'à trois fois. Si un chercheur veut que son article soit immédiatement en open access, il va payer ce qu'on appelle des APC, des Article Processing Charges, pour que son article soit immédiatement en open access. Et donc ça va rajouter au coût de la facture. Et là, il y a un risque très important, ce qu'on appelle le risque de double dipping, double facturation, c'est-à-dire que d'un côté, la bibliothèque paye pour l'abonnement au bouquet, mais par ailleurs, au sein de ces revues qui constituent le bouquet, il peut y avoir des articles pour lesquels les chercheurs ont payé des APC pour que précisément leurs articles soient non pas accessibles sur abonnement, paywall, mais sur paiement d'APC.
Tout le process éditorial pour vérifier que l'article soit de qualité avant de le publier, effectivement, donc, et là, pour le coup, en source libre. Donc, ouais, c'est complètement démentiel, quoi.
Voilà, un risque de perte de contrôle absolu sur les flux financiers.
Et donc, on a parlé rapidement, justement, du libre accès, de l'open access. Structurellement, comment ça marche et qui sont les intervenants ?
Le mouvement de l'open science, maintenant, il a 30 ans, hein. La première date importante, c'est 91, la création donc de Archive.
C'est pas un groupe de musique progressive, ça s'écrit pas pareil d'ailleurs, ARXIV. Hein.
Voilà, c'est un entrepôt de préprint. Au départ, c'était surtout en physique des hautes énergies, et puis ça s'est développé et ça a fini par embrasser tous les champs des sciences dites dures. Le mouvement a été suivi donc par Cielo, c'est un portail de revues en libre accès qui concerne tous les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Il y a Cochprints pour la psychologie, neurosciences, linguistiques. Il y a Repec aussi, très important, hein, donc un portail de partage de préprint en économie. Et puis, donc autre date importante, donc c'est le BOAI, ce qu'on appelle le BOAI, c'est le Budapest Open Archive Initiative 2002, donc qui distingue deux voies, ça c'est très important, deux voies pour le libre accès. La voie dorée, ce qu'ils appellent le Gold Open Access. Je publie dans une revue et mon article est immédiatement open access. Ça ne veut pas forcément dire que le chercheur paye ce qu'on appelle des APC pour être immédiatement open access. Il faut savoir quand même que 75% des revues de la voie dorée sont sans frais pour les chercheurs. Et puis la voie verte, qu'est-ce que c'est ? C'est le dépôt de l'article dans une archive ouverte. Voilà. Alors en France, l'archive ouverte la plus connue, c'est HAL, H-A-L, ce qui est l'acronyme d'Hyper Article en Ligne, hein, donc qui a émergé en 2001. Et le nom HAL, en fait, est un clin d'œil à un film bien connu,
2017 d'espoir.
Voilà.
HAL dans la fiction est conçu dans la même université que l'université qui a réellement conçu Mosaic, le premier navigateur web, dans l'Illinois. CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Pierre Nagelen, bibliothécaire responsable des ressources électroniques à l'université Paul Sabatier, pour parler des bibliothèques scientifiques. Qui est Alexandra Elbakian ?
Alexandra Elbakian, on peut dire que c'est une figure très importante dans le domaine de l'édition scientifique. C'est une jeune chercheuse en sciences de la vie, en neurosciences. Elle est née en 1988 au Kazakhstan. Elle a fait l'essentiel de ses études en neurosciences en Allemagne. Mmh. Et en 2011, elle s'aperçoit qu'elle a besoin pour sa thèse d'un certain nombre d'articles scientifiques. Et là, elle se heurte au fameux paywall. Il faut payer parfois jusqu'à $30 par article pour accéder au contenu en texte intégral. Et là, elle a l'idée donc de créer un site de partage des articles scientifiques. Mmh. Donc le principe est simple, les chercheurs des établissements abonnés partout dans le monde sont invités à déposer donc sur donc le site qui s'appelle SciHub, le site créé par Alexandra, les articles auxquels ils ont accès via leur établissement.
SciHub, est-ce que c'est le Pirate Bay de la connaissance scientifique ?
Le parallèle est intéressant. Cependant, il faut vraiment mettre les choses en perspective. Parce que qu'est-ce qu'on trouve sur SciHub ? On trouve donc des articles issus de la recherche, donc financés sur fonds publics, dans plus de 80% des cas. Et ces articles sont rédigés par des chercheurs dont le salaire vient d'institutions publiques. Dans l'idéal, ces productions scientifiques devraient être immédiatement accessibles et réutilisables. Sur le site de l'UNESCO, il y a un texte qui s'appelle « Le domaine public de l'information » et qui, en fait, développe ce principe. Toute information publiée donc sur fonds publics devrait être immédiatement versée dans le domaine public informationnel. Comme pour Pirate Bay, il y a eu des procès. Donc en novembre 2015, donc il y a un tribunal fédéral de New York qui a donc déclaré coupable Alexandra Elbakian d'avoir piraté des articles scientifiques de l'éditeur Elsevier. Mmh. Il n'y avait pas que SciHub, il y avait aussi LibGen qui est un outil un peu équivalent de SciHub. Phénomène assez intéressant, c'est ce qu'on appelle l'effet Streisand, c'est-à-dire...
Ça, on connaît très bien. Tu popularises ce que tu voulais faire taire, voilà, bravo.
Voilà, juste après le procès, donc en novembre 2015, on s'est aperçu que les stats de consultation de SciHub ont commencé à vraiment augmenter, tandis que celles de la plateforme donc d'Elsevier, Science Direct, ont significativement baissé.
Donc, le site SciHub et ses multiples miroirs sont interdits d'accès en France par plusieurs décisions judiciaires. Je tiens à signaler d'ailleurs qu'il est très compliqué d'arriver à avoir une liste des sites qui sont censurés en France par leur nom de domaine. Mais on a cette liste, il se trouve par hasard dans CPU. D'ailleurs, une décision judiciaire d'interdiction d'un site n'est notifiée qu'aux principaux FAI français. Donc si vous n'êtes pas chez un très gros FAI, il y a une chance que vous pouvez y accéder. Et d'ailleurs, du coup, est-ce que SciHub ou un de ces miroirs est accessible depuis Renater, le FAI des universités?
Oui, complètement. C'est une
donc ça veut dire que à chaque fois que Elsevier ou tous les autres disent on veut interdire SciHub, etc., le juge oublie de mettre Renater dans la liste des FAI à notifier qu'il faut interdire l'accès.
Voilà, si on regarde le jugement là, du TGI de Paris là en mars 2019, l'obligation donc d'empêcher l'accès à SciHub depuis le territoire français, elle s'applique aux principaux FAI, Orange, Bouygues...
Oui, parce que le juge indique nommément le nom des FAI, et donc à chaque fois, Renater passe à l'os. Donc les avocats oublient de signaler qu'il faut rajouter Renater.
Alors, il se peut que localement, tel ou tel établissement ait bloqué l'accès à SciHub pour les IP sur son campus. On n'a pas d'état des lieux précis sur cette question, mais à ma connaissance, par défaut, SciHub est accessible sur tout le réseau Renater.
Alors, durant la préparation de cette émission, on a eu une information qui nous a stupéfaits tous les deux. Le compte Apple de Alexandra Elbakian, la fondatrice de SciHub, a été perquisitionné par le FBI. Là, on est allé à une étape supplémentaire, justement, sur l'attaque des ayants droit supposés, justement, sur SciHub et donc sur ces sites de publication gris, on va dire. Elsevier utiliserait-il les mêmes armes juridiques que celles des ayants droit de l'industrie musicale? Mais dans ce cas-là, juridiquement, sont-ils vraiment propriétaires des articles qu'ils publient? Ils n'ont pas payé pour, ils n'ont pas acheté ces articles puisqu'ils ne paient pas les auteurs. Sont-ils vraiment propriétaires ?
Ils sont propriétaires, disons, de la version du PDF éditeur. Voilà. Mmh. Lorsque les articles des chercheurs sont acceptés pour publication, l'éditeur leur fait signer un contrat extrêmement précis qui les prive le plus souvent du droit de réutiliser les publications comme ils l'entendent. Voilà, donc ce qu'on appelle un transfert des droits patrimoniaux depuis l'auteur vers l'éditeur. Petit à petit, en fait, il y a des mécanismes juridiques qui entrent en action et qui permettent de limiter considérablement...
Oui, mais en France, ça s'appelle le droit d'auteur, le droit moral et le droit patrimonial, justement. Il ne devrait pas être unilatéral.
Donc, il y a par exemple la loi République numérique d'octobre 2016. Il y a ce fameux article 30 qui prévoit que donc le chercheur peut déposer... Alors, non pas le PDF éditeur, hein, puisque le PDF éditeur reste la propriété de l'éditeur. Hein, ça, on ne peut pas le contourner. Le chercheur peut publier sa version auteur acceptée, c'est-à-dire en fait le manuscrit auteur accepté, c'est le préprint mais qui a été relu par les pairs, corrigé, etc. Mais sans la mise en page de l'éditeur, donc pas le copyright, pas le logo de l'éditeur, etc. Et donc il peut déposer ce fameux article, manuscrit auteur accepté, dans une archive ouverte. Alors il y a des délais à respecter, ce qu'on appelle l'embargo. Donc pour les sciences techniques médecine, ça va être 6 mois après la date de mise en ligne sur le site de l'éditeur, et pour sciences humaines et sociales, ça va être 1 an.
D'accord, ok, donc ils ont une période d'exclus, quoi, point barre.
Voilà, et puis il y a un autre mécanisme au niveau européen qui va encore beaucoup plus loin. C'est ce qu'on appelle le plan S, hein, qui est en train de se mettre en place, qui est en train de fournir ses premiers effets depuis 2021 et qui va monter en puissance en 2022. Et donc le plan S prévoit donc une stratégie qu'ils ont appelée la rétention des droits. Ça consiste à informer l'éditeur, donc dès la soumission de l'article, que donc la version acceptée doit être publiée sous licence CC BY sur le site de l'éditeur. Et donc elle sera diffusée sous licence CC BY, donc dans une archive ouverte.
Alors,
et sans embargo.
CC Creative Commons.
Ouais. Voilà.
Ah bah tiens, on vient de parler justement d'Aaron Swartz. Mais pour en revenir, puisque donc l'industrie de l'édition scientifique se revendique, utilise donc les lois qui ont été mises en place pour les ayants droit de l'industrie musicale et cinématographique. Dans ce cas-là, sachant qu'à l'achat d'un support vierge, on paie une contribution à la copie aux ayants droit via la SDRM, SCPP, Copie France, CNL, SACEM, ce que vous voulez derrière, est-ce que les scientifiques auteurs d'études publiées dans les journaux en perçoivent quelque chose ?
Alors,
parce qu'on va, dépenser 20 euros dans l'achat d'un iPhone, si on stocke de l'article scientifique dans son iPhone, dans ce cas-là, c'était normal que le scientifique perçoive une rémunération juste.
Alors, les chercheurs ne perçoivent pas de rémunération sur la copie d'articles et sur le stockage de ces copies.
Donc, si même leur recherche est adaptée en série Netflix ou au cinéma, en trilogie, ils touchent rien ?
Mais c'est le principe quand même fondamental de libre diffusion de la recherche scientifique, qui est évidemment contrecarré par tout ce qu'on a vu sur la mainmise des éditeurs scientifiques. Mais pour en revenir à votre question, donc le chercheur ne publie pas pour faire du fric, mais pour partager des connaissances. Voilà. Et j'en reviens là à mon dada, hein, donc le texte de l'UNESCO, alors je crois que c'est 2011, hein, domaine public de l'information. Donc les connaissances devraient être pleinement intégrées d'emblée, partagées et intégrées au domaine public de l'information à un niveau mondial.
Et c'est sur ces révélations stupéfiantes que nous enchaînons sur un suspense insoutenable d'une semaine pour la suite de cette interview. Pierre Nagelen, vous ne bougez pas, nous revenons à l'antenne jeudi prochain à 11h.